C'est le moment de prendre des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Francopresse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Alors Julien, un titre qui frappe l'imaginaire, qui met un peu de pression, là, parler la langue du patient améliore ses chances de survie.
Oui, c'est une étude qu'on dit la plus compréhensive faite à ce jour sur ce sujet-là, qui a été publiée au début de l'été. Elle conclut que les francophones de l'extérieur du Québec voient leur risque de décès diminuer d'en moyenne 11 % quand ils reçoivent des soins dans leur langue. Le chercheur principal de cette étude-là, c'est le docteur Michael Rehome, qui est un franco-manitobain. Lui croit que leur analyse est la plus précise que d'autres qui ont été faites avant. C'est pas la première fois qu'on essaie d'étudier ce sujet-là. Mais lui, il dit que cette recherche est un peu précise parce qu'ils ont utilisé un échantillon plus grand. C'était 16 100 francophones de l'extérieur du Québec. Puis, ils ont suivi pendant plus longtemps grâce aux banques de données qu'ils avaient. Ils ont suivi pendant 15 ans. Puis, en plus que ça, les données, c'était des données de Statistique Canada, d'une enquête spécifique sur la santé, puis des données de l'Institut canadien d'information sur la santé qui leur permettait de faire le suivi des gens. Une autre trouvaille dans cette étude-là, c'est que le même risque de décès des allophones, donc les gens qui parlent, qui n'ont pas l'anglais ou le français comme langue principale, diminue encore plus que celle des francophones. Donc, 27 % de moins de chances de décès quand ils sont traités dans leur langue. Ce qui est intéressant aussi, qui montre la différence, c'est que dans leurs données, ils n'ont pas vu de différence de risque de décès chez les anglophones du Québec. Donc, de leur côté, statistiquement, il n'y avait pas de différence s'ils étaient traités dans leur langue préférée ou non. Pour améliorer la situation, c'est une des choses qu'on mentionne dans l'étude aussi, les chercheurs recommandent d'améliorer les services de santé dans la langue autre que l'anglais au pays, surtout en français, et soit en ayant plus de personnel ou des services de traduction plus facilement accessibles. On dit aussi que la langue préférée des patients et la langue que les fournisseurs de soins peuvent dans laquelle peuvent donner des soins devraient être censées de façon plus systématique.
Oui, c'est du sérieux. Les provinces maritimes veulent mettre leur électricité en commun. On en parle dans l'Acadie Nouvelle.
La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard ont signé la semaine dernière, là, pendant la réunion des premiers ministres des provinces à Charlottetown, un protocole d'entente pour établir une meilleure collaboration dans la distribution de l'électricité entre les trois provinces. Chacune resterait responsable de sa production. Il y aurait une agence centrale qui pourrait voir le jour pour gérer la distribution, le partage entre les trois. Un des avantages que ça donnerait, c'est de mieux profiter de la production d'énergie renouvelable. L'exemple que je peux vous donner, c'est des éoliennes à l'île du Prince-Édouard qui pourraient fournir de l'énergie à la Nouvelle-Écosse pendant qu'il y a une hausse de demande d'électricité en raison du froid, par exemple, qui pourrait être plus intense dans une province que dans l'autre. C'est pas la première fois que ce genre d'entente-là est exploré. L'Acadie Nouvelle nous rappelle qu'en 2023, il y avait un projet qui regroupait ces trois provinces-là, plus Terre-Neuve et Labrador et le Québec. L'entente a échoué parce que la Nouvelle-Écosse a commencé à questionner la facture de 9 milliards qui était mise de l'avant pour ce partage-là. Puis Hydro-Québec, eux, avaient conclu que ça réduirait leur surplus d'électricité à partager. Donc, ils s'étaient retirés aussi. Cette fois-ci, par contre, la région concernée est plus limitée. Puis les circonstances économiques font dire au professeur d'ingénierie de l'Université de Moncton, Yves Gagnon, que le projet a des bonnes chances d'aboutir.
Par ailleurs, le maire d'Ottawa veut faire de 2028 l'année de la francophonie.
Mark Sutcliffe est le nom du maire d'Ottawa. Puis oui, il veut profiter de la présentation du sommet de la francophonie internationale qui a été annoncé le 1er juillet par Mark Carney. Il est confirmé qu'il aurait lieu en 2028 à Ottawa. Ça reste à être entériné lors du prochain congrès au Cambodge, mais ça devrait être pas mal dans la poche. Donc, il voudrait profiter de ce sommet-là pour souligner autant que possible le caractère francophone de la capitale du Canada. Il a déposé une motion à l'hôtel de ville pour faire reconnaître 2028 comme l'année de la francophonie dans la municipalité, puis il aimerait que la célébration concerne plus que les quelques jours du sommet et que ce soit quelque chose qui dure toute l'année. De son côté, l'Association canadienne française de l'Ontario à Ottawa est contente de la déclaration, mais voudrait qu'on en profite aussi pour promouvoir la francophonie au-delà du sommet et rappeler qu'Ottawa a une importante population bilingue, donc ils sont bien investi dans le projet. Puis, sans être totalement critique ou rejeter l'idée sur les réseaux sociaux, il y a quand même des gens qui ont commenté la vidéo du maire qui parlait de cette idée-là, en lui rappelant qu'il n'a pas vraiment fait les démarches pour que Ottawa soit une ville officiellement bilingue. Il s'est surtout concentré sur l'offre de services en français. Donc, on lui rappelle que peut-être que ce serait l'occasion de ramener ce débat-là et de déclarer Ottawa comme une ville officiellement bilingue qui peut offrir des services à tous ses citoyens dans les deux langues.
Une nouvelle qu'on peut lire dans Le Droit. Et maintenant, dans l'eau vive, une pétition déclenche une assemblée extraordinaire pour le projet de maison de la francophonie.
J'en ai parlé de ce projet-là, de l'Assemblée communautaire françaisoise, qui est de construire, d'établir ce qu'on pourrait appeler une maison de la francophonie au centre-ville de Regina. On y abriterait les archives de la société historique, il y aura un café, une garderie, des bureaux pour des associations. À la fin juin, l'Association communautaire francescoise de Regina, donc celle de la ville, a retiré pour l'instant son soutien au projet, puis a fait circuler une pétition pour demander à l'association provinciale d'organiser une assemblée générale extraordinaire pour débattre publiquement du dossier. L'association de Regina dit craindre plusieurs choses par rapport au projet. Premièrement, le financement est encore flou, on ne sait pas d'où va venir l'argent, puis on attend aussi un plan d'affaires pour savoir si ça va vraiment fonctionner. L'édifice choisi aussi n'est pas dans les aussi bonnes conditions qu'on pourrait le croire, ou du moins ils ont peur que ce soit le cas. Puis le centre-ville de Regina, ben, c'est pas le choix le plus sécuritaire selon eux en ce moment. Il y aurait aussi un possible dédoublement d'infrastructures parce que, entre autres, l'association offre des services similaires dans des centres de services francophones qui sont rattachés à des écoles dans la ville. Il y a aussi, dans l'article de l'Eau vive, un ancien président de l'association provinciale qui a signé la pétition, qui parle, puis il n'est pas contre le projet, mais il dit qu'il manque encore beaucoup de détails, donc il veut en avoir plus, il veut avoir plus d'informations. Il veut aussi la possibilité d'une compétition malsaine entre ce projet puis celui de la ville de Prince-Albert, qui veut aussi se construire un centre francophone. Il rappelle que le fédéral ne financera peut-être pas les deux projets. Donc, l'association provinciale a accepté d'organiser une assemblée générale annuelle, mais on ne sait pas encore la date.
À suivre. Dans l'Aquilon, un bilan annuel positif pour les langues officielles au territoire du Nord-Ouest.
La commissaire aux langues officielles par intérim, qui s'appelle Christa Kornogurski, disait avoir reçu peu de plaintes au cours de l'année dernière et que les langues officielles au territoire du Nord-Ouest sont bien représentées dans les services publics. Je vous rappelle, par contre, que quand on parle de langue officielle au territoire du Nord-Ouest, oui, on parle de l'anglais et du français, mais aussi de 9 autres langues autochtones. Elle a tout de même mené une enquête qui a pu déterminer comment le gouvernement du territoire établit quels postes doivent exiger le français pour mieux les guider puis pouvoir avoir un nombre de postes conséquents, avoir les bons postes qui doivent posséder le français comme dans les compétences. Puis en fait, le plus grand défi qu'elle a constaté, c'est de faire connaître les droits et les services en matière de défense des langues officielles auprès du public. Son bureau n'est pas très connu. Le fait qu'on peut porter plainte n'est pas toujours d'une connaissance bien implantée chez la population non plus. Les francophones semblent se prévaloir davantage de leur droit de porter plainte. Puis, mais elle désire, pour aider les autres à le faire, établir un climat de confiance envers son bureau pour qu'il y ait encore plus de signalements quand les droits linguistiques ne sont pas respectés.
Merci beaucoup, Julien. On va se retrouver un peu plus tard, puisque moi, je pars en vacances au mois d'août, donc de retour à la rentrée. Portez-vous bien.
Merci, je vous souhaite des très belles vacances.
Vous êtes bien gentil. Merci.